VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Nigeria, deuxième jour de dépouillement du scrutin du week-end dernier. Le candidat d'opposition Muhammadu Buhari mène avec plus de 3 millions de voix d'avance sur le président Goodluck Jonathan après décompte du vote présidentiel dans la majorité des États du pays. Ce qui suscite la colère de certains partisans de M. Jonathan. L'un d'entre eux a interrompu pendant une vingtaine de minutes ce matin l'annonce des résultats au siège de la Commission électorale indépendante à Abuja et a accusé le président de cette institution de ne pas être impartial. Ce qu'a démenti Plusieurs organisations ont déployé des observateurs au Nigeria pendant les élections du week-end. Parmi les délégations présentes sur le terrain, celle du National Democratic Institute des États-Unis, le NDI. Timothée Donangmaya joint à Abuja le coprésident de cette délégation et directeur pour l'Afrique du NDI, Christopher Fomunio, pour un compte-rendu.
Il y a eu quelques ratés, comme le retard dans l'arrivée des agences électorales, le retard dans l'arrivée du matériel électoral. Mais nous avons aussi constaté des améliorations par rapport au scrutin passé. Par exemple, les électeurs étaient très disciplinés, très calmes, très posés en attendant le démarrage du scrutin. Et dans la plupart des États, le jour du scrutin s'est déroulé sans violence, ce qui est quand même un fait remarquable dans un pays qui, par le passé, a connu des violences autour de ces élections.
Le directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute, Christopher Fomunio. La guerre contre Boko Haram maintenant, incursion des combattants du groupe islamiste nigérian hier dans le sud-est du Niger. Mais ils ont été repoussés vers le nord-est du Nigeria voisin. C'est ce qu'affirme l'AFP citant une source militaire tchadienne. Au moins 4 véhicules utilisés par les islamistes auraient été détruits, dont un blindé. Niger toujours, l'extrême sud-est du pays, en particulier la région de Diffa, se remet lentement après les incursions de Boko Haram. Des précisions avec Ali Alousseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de Diffa, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Il y a des dégâts incalculables sur le plan économique parce que quand vous prenez la région de Diffa, c'est une région phare en matière de poivrons, 27 milliards de poivrons par an. Et on a 16 milliards de poissons par an qui transitent par la région de Diffa. C'est ça la base de notre économie.
Et aujourd'hui, ça n'est où maintenant?
Ça ne marche pas dans la mesure où ces exactions ont fait en sorte que ce commerce est tari. L'État a pris des dispositions au niveau régional pour pouvoir stopper ce commerce-là parce qu'il intercepte les populations qui ont les poivrons, les populations qui ont le poisson pour avoir une manne qui leur permette de faire la guerre. Dès lors qu'on a mis fin à cette situation-là, rien qu'avant-hier, les éléments de Boko Haram qui ont voulu se rendre parce qu'effectivement, ils ont été coupés de la source.
Ali Alousseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de Diffa au Niger. Guinée, l'opposition appelle à une journée ville morte ce jeudi. Les opposants contestent toujours le calendrier électoral qui prévoit de tenir la présidentielle le 11 octobre prochain avant les élections locales en 2016. Nicolas Pino a joint Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La journée ville morte que l'opposition guinéenne projette s'inscrit dans un cycle de manifestations que nous avons décidé d'initier suite au refus du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser enfin les élections communales dont les mandats ont expiré depuis plus de 5 ans. Et nous sommes donc dans cette crise politique qui n'en finit pas de perdurer parce que le gouvernement n'est pas ouvert au dialogue, parce que la CENI et le gouvernement violent systématiquement la Constitution et les lois de la République, l'objectif étant d'organiser une véritable mascarade électorale le 11 octobre prochain pour plébisciter en quelque sorte le président sortant. Ce que nous refusons catégoriquement, nous inscrivons dans la logique d'élections transparentes et crédibles.
Pourquoi finalement ne pas boycotter ces élections présidentielles, puisque le calendrier ne sera pas changé par la CENI?
Nous pensons qu'il est possible de changer le calendrier parce qu'il est établi par certains commissaires qui sont au sein de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il est parfaitement possible, dans l'intervalle du temps qui nous sépare de l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans l'intervalle de 7 mois, qu'il est parfaitement possible entre-temps d'organiser les communales avant l'échéance du 11 octobre. Donc nous nous engageons dans ces manifestations pour obliger le gouvernement et la CENI à tenir compte de notre Constitution, qui prévoit des mandats bien définis et qui doivent être renouvelés chaque fois qu'ils arrivent à expiration.
Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, les défenseurs des droits de l'homme soutiennent la campagne menée par Amnesty International pour la libération d'une trentaine de jeunes Congolais militants pro-démocratie détenus depuis le 15 mars. Des précisions avec le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, joint à Kinshasa par Eddy Issango.
C'est une action que nous saluons énormément parce qu'elle vient s'ajouter à toutes les autres actions que nous avons menées depuis que ces activistes pour démocratie ont été arrêtés et sont détenus au secret par des services de renseignement ANR, sans possibilité de recevoir la visite familiale ni l'assistance de leurs avocats, ce que nous considérons comme une violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et puis nous fustigeons le fait que ce service est publiquement encouragé par le gouvernement à travers son porte-parole et qui ne cesse de tenter à démontrer que c'est une détention régulière.
Les gouvernements les accusent de préparer une insurrection contre les pouvoirs en place. Est-ce que vous pensez que c'est fondé, ces accusations du gouvernement?
Non, c'est fantaisiste, sans aucun fondement. Ça veut dire du n'importe quoi.
Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, au micro d'Eddy Issango. L'actualité hors d'Afrique maintenant, nouvel avertissement du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. La Turquie ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. Affirmation qui signale le net rapprochement entre Ankara et l'Arabie saoudite, qui attaque en ce moment les rebelles chiites houthis du Yémen, soutenus par Téhéran. C'est du moins ce que disent beaucoup d'observateurs, Michel Joseph.
Hier, le chef de l'État turc a sommé ceux qui s'ingèrent dans les affaires internes du Yémen de s'en retirer. Jeudi dernier déjà, Recep Tayyip Erdogan avait accusé l'Iran d'avoir déployé des troupes au Yémen, avertissant qu'Ankara ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. De l'avis des observateurs, la fermeté du nouveau roi saoudien Abdallah dans son soutien aux rebelles syriens et ses efforts pour contrer l'influence régionale de l'Iran ne sont pas étrangères à ce rapprochement entre Riyad et Ankara. Du reste, le parti AK d'Erdogan étant d'obédience islamiste sunnite, pas étonnant qu'Ankara voit de plus en plus la région à travers le prisme de la division chiite sunnite, soulignent les experts.
Au Yémen même, nouveau raid aérien de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites, houthis et leurs alliés dans la nuit de lundi à mardi. Et puis, pour parler sur le nucléaire iranien à Lausanne en Suisse, les négociateurs de l'Iran et des pays du P5+1, qui comprend notamment les États-Unis, n'ont plus que quelques heures pour conclure un accord cadre avant l'expiration du délai fixé, ce soir à minuit. Le secrétaire d'État américain John Kerry dit qu'il reste encore des problèmes difficiles à résoudre. Et maintenant, la minute économique avec Jean-Roger Bion.
Les industriels de la sécurité en Afrique du Sud ont appelé hier le président Jacob Zuma à renoncer à promulguer une loi obligeant les multinationales du secteur à céder le contrôle de leurs filiales sud-africaines à des actionnaires locaux. Ces sociétés fournissent essentiellement du personnel de gardiennage, des convoyeurs de fonds et des vigiles. Le gouvernement justifie cette loi par des menaces pour la sécurité nationale, mais il est soupçonné d'agir au bénéfice d'intérêts privés désireux de mettre la main sur ce secteur lucratif. En RDC, la révision du code minier au cœur d'une controverse. Les acteurs du secteur ne cessent de se déchirer depuis la publication d'un ouvrage sur la question. La Chambre des mines exhorte à s'en tenir à l'existant. On écoute son président Simon Toumawaku.
Nous disons oui pour la révision du code minier, étant donné d'ailleurs que la constitution de notre pays est venue après 2002, donc il fallait l'adapter. Mais le régime fiscal douanier d'échange que nous avons adopté en 2002 ne commence à donner l'effet que maintenant. Donc le code, en fait, n'est en application que de 6 ans.
Simon Toumawaku, président de la Chambre des mines en République démocratique du Congo, au micro de nos confrères de Radio Okapi. L'Organisation mondiale du tourisme a dit lundi avoir une entière confiance dans la capacité de la Tunisie à rebondir après l'attentat sanglant du 18 mars au musée du Bardo, malgré des premiers chiffres en berne. Le secteur du tourisme est stratégique pour l'économie tunisienne. Il n'a cependant jamais réussi à retrouver son niveau d'avant la révolution de janvier 2011 et de nombreux professionnels craignent une nouvelle chute cette année après les événements du Bardo.
Merci Jean-Roger Bion. Et pour terminer, le président Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, terre natale de son père, pour sa première visite dans le pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. C'est ce qu'annonce l'exécutif américain. Ce sera le 4e voyage en Afrique subsaharienne du président Obama depuis son accession à la présidence. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.